Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in deze uitzending van Elke dag telt. In de uitzending van vandaag en van morgen gaan we in gesprek met twee jonge mannen. Met Thibaut en Simeon. Beiden gaan vertellen over hun weg samen met de gemeenschap Cenacolo.
Salvezza.
Beste luisteraars van Radio Maria, vandaag hebben we twee gasten bij ons in de studio. Twee gasten van de Cenacolo-gemeenschap en ze gaan ons daar wat meer over vertellen. Maar natuurlijk vraag ik hen eerst om zich eventjes aan jullie voor te stellen. Hier bij mij heb ik rond de tafel Thibaut en Siméon. Siméon, bienvenue dans notre émission.
Merci.
Est-ce que tu veux te présenter à nos auditeurs?
Alors, j'ai 24 ans. Je viens de Belgique. J'habite dans un petit village près de Jodogne. Et je suis en communauté maintenant depuis 6 ans. Donc, je suis rentré en communauté à 18 ans. Et voilà, tout simplement, je rentrais en communauté parce que j'avais des problèmes de dépression, d'addiction avec les écrans. Et voilà, un mal-être intérieur qui m'a amené à demander de l'aide là-bas.
Dus zijn naam is Siméon, hij is 24 jaar oud. Hij komt van een dorpje dichtbij Geldenaken, niet ver van onze nieuwe studio's hier in Tienen, beste luisteraars. Al 6 jaar maakt hij deel uit van de Cenacolo-gemeenschap. Hij is op 18 jaar daar binnengegaan. Hij had last van depressies en ook verslaving van alles wat schermen betreft. En een innerlijke onrust dat hij graag wou, waar hij graag aan wou werken. En daarom heeft hij de stap gezet, de grote stap gezet, om bij de Cenacolo-gemeenschap aan te sluiten. We gaan hem straks zeker ook vragen om Cenacolo even uit te leggen. Maar ik kijk even naar zijn buurman en ik ga hem ook vragen om zich voor te stellen. Thibaut, est-ce que tu veux te présenter à nos auditeurs?
Oui, alors bonjour, moi je m'appelle Thibaut, j'ai 32 ans et je suis français et je suis en communauté depuis 5 ans. Et voilà, je suis allé dans quelques maisons, 4-5 maisons. Et moi aussi, je suis rentré parce que j'avais un peu touché le fond dans ma vie. Le Cenacolo était mis sur ma route. Un jour, j'ai décidé d'essayer en pensant que ça pouvait être une solution pour moi. Et je le sentais à l'intérieur de moi. Et je suis très heureux actuellement d'avoir rencontré la communauté. Voilà.
Thibaut is 32 jaar oud. Hij is Frans. Hij komt uit Frankrijk. Hij is ondertussen al 5 jaar lid van de gemeenschap Cenacolo. Hij heeft al 4-5 huizen van de gemeenschap gezien. Hij is er eigenlijk naartoe gegaan nadat hij een dieptepunt in zijn leven had beleefd. Cenacolo is eigenlijk zo op zijn weg gekomen. En hij dacht, ja, dit kan misschien een oplossing zijn voor mijn problemen. En het voelde echt alsof het de oplossing was voor hem. En hij is nu vandaag zeer gelukkig dat hij die stap heeft gezet en dat hij deel uitmaakt van de gemeenschap Cenacolo. Siméon, est-ce que tu veux expliquer aux auditeurs? Nous avons déjà eu des programmes où on a parlé de Cenacolo, mais peut-être raconter en bref qu'est-ce que c'est Cenacolo et c'est quoi le fait de vivre en communauté?
Alors, la communauté a été fondée par une sœur italienne, Mère Elvira, qui maintenant est décédée depuis 3 ans. Communauté fondée en 1983 en Italie. Alors, cette sœur était dans un couvent à Turin, dans le nord de l'Italie, et en plein centre de la ville. Et elle disait que depuis toujours, elle était confrontée au mal-être des jeunes qui se droguaient dans la rue.
Dus de gemeenschap Cenacolo is gesticht door een Italiaanse zuster, moeder Elvira, die ondertussen 3 jaar geleden overleden is. Het is gestart in 1983 in Italië, noorden van Italië, in Turijn. En moeder Elvira zei toen dat ze altijd al geconfronteerd werd met jongeren met drugsproblematiek en die een zekere onrust, innerlijke onrust en echt diep ongelukkig waren en dat ze deze, voor deze jongeren wou zorgen.
Elle est donc partie avec deux autres sœurs à Saluzzo, dans un petit village, dans une petite ville à 60 km de Turin. Et elle a ouvert une première maison, une maison qui leur a été offerte par la commune. Et elles sont parties là-bas, mais sans aucune expérience. Sœur Elvira est née pauvre, elle n'a pas étudié. Et donc, en fait, toute son œuvre est partie vraiment d'un instinct qu'elle a eu, une intuition qui l'a portée à faire des choix et prendre des décisions.
Et donc, moeder Elvira is eigenlijk samen met twee zusters vertrokken naar een klein stadje niet ver van Turijn. U moet weten, moeder Elvira is zeer arm geboren, heeft ook absoluut geen studie gedaan. Dus samen met die twee andere zusters zijn ze zonder enige ervaring eigenlijk daarmee begonnen met deze innerlijke roeping van moeder Elvira. Zonder enige opleiding of wat dan ook hebben ze in de buurt van Turijn dus hun eerste huis geopend.
Alors, elle racontait toujours que la maison était une ruine. Donc, il n'y avait pas de porte, pas de fenêtre, pas de lit, pas rien du tout. Et elles sont arrivées là-bas, comme ça. Et tout de suite, au bout de quelques jours, des jeunes sont arrivés en demandant de l'aide. Et Mère Elvira a tout de suite été frappée par le fait que ces jeunes ne lui demandaient pas de l'argent, ne lui demandaient pas à manger, ne lui demandaient pas un endroit pour dormir pour une nuit, mais appelaient vraiment à l'aide. Elle disait vraiment qu'avec leur vie, ils criaient qu'ils avaient besoin de changer, ils avaient besoin de changer de cap.
En moeder Elvira vertelde altijd dat wanneer ze begonnen bij dat eerste huis, dat eigenlijk een ruïne was. Dat er echt niks was, zelfs geen deur, geen voordeur. Maar één keer dat ze aangekomen waren, zelfs de eerste dagen al, kwamen jongeren naar hen toe. En ze gingen hen helpen, maar vroegen ook de zusters absoluut niet om geld, om eten of een huis. Maar ze vroegen gewoon een hulp. Het was werkelijk een kreet van hulp dat ze vroegen aan moeder Elvira en de twee andere zusters.
Alors la communauté a commencé à grandir. Au début, mère Elvira pensait ouvrir une maison pour une cinquantaine de jeunes, pour aider là dans l'endroit où elle était. Très vite, ça a dépassé tout ce qu'elle attendait. Et aujourd'hui, la communauté a grandi. C'est plus ou moins une 75 maisons dans le monde entier. En grande partie en Europe, mais aussi en Amérique latine, aux États-Unis, aux Philippines, en Afrique. Et voilà, la communauté continue à grandir.
En heel rap is de gemeenschap gaan groeien, beste luisteraars. Want moeder Elvira dacht eerst van, ik ga één huis openen voor 50 mensen, voor de jongeren hier in de buurt van Turijn. Maar uiteindelijk is het veel meer geworden. Op de dag van vandaag kunnen we zeggen dat er ongeveer 75 huizen zijn wereldwijd. Veel huizen in Europa, maar ook natuurlijk in Zuid-Amerika, in Afrika, in de Filipijnen.
Voilà, alors la communauté, ça c'était plus ou moins pour l'histoire, très très rapidement. La communauté aujourd'hui fonctionne basée sur trois grands piliers. Moi j'aime bien dire quatre. Il faut savoir que la communauté fonctionne d'une manière autonome, c'est-à-dire que les jeunes qui rentrent là-bas ne sont pas accompagnés par des docteurs, par des psychologues, par des psychiatres. Mère Elvira a toujours refusé les subsides de l'État, a toujours refusé même l'argent des parents, parce qu'elle voulait garder son indépendance par rapport à la manière de faire les choses. Et moi, j'ai toujours été touché parce que on nous a toujours senti qu'en fait, c'est pas, elle a jamais rien imposé aux jeunes. Tout ce qui a fait que la communauté a grandi est toujours parti des jeunes. Ça a toujours été une demande des jeunes.
En dus We hebben ongeveer het verhaal gehoord van de stichting van de Cenacolo-gemeenschap. En iets wat heel belangrijk is voor de gemeenschap, zegt Simeon, zijn de drie pilaren. Een van die pilaren, hij zegt zelfs vier, we gaan dat straks wel vernemen wat hij de vierde pilaar vindt. Maar een van die drie pilaren is het feit dat de Cenacolo-gemeenschap zelfstandig is. Vanaf het begin wou moeder Elvira niet gelijk dat er subsidies waren van gemeentes of van steden, maar dat het wel degelijk zelfstandig zou blijven. Dus de jongeren worden ook niet begeleid door psychiaters of dokters of wat dan ook, want ze wou nooit een druk hebben of wat dan ook op de jongeren. En wat heel mooi was, vertelt Simeon bij moeder Elvira, is dat er ook nooit een soort verplichtingsgevoel was naar de jongeren toe.
Donc voilà, les trois piliers, les trois principaux sont la prière, le travail et la vie fraternelle. Mère Elvira, en étant sœur, quand elle a ouvert la communauté, priait régulièrement. Et les jeunes, très vite, ont demandé à participer avec elle. Et depuis lors, maintenant, la communauté propose vraiment un chemin de reconstruction intérieure à travers la voie de la foi, à travers la redécouverte de la vie de prière. Les journées des jeunes sont rythmées par la prière, donc on prie beaucoup, on prie trois chapelets par jour. C'est un rythme un peu exigeant, mais voilà, Mère Elvira, elle disait toujours cette phrase-là, elle disait « si vous apprenez à être à genoux, après vous pourrez marcher sans problème. »
Dus het eerste wat ik daar juist vertelde, beste luisteraars, over het feit dat ze altijd wou dat de gemeenschap zelfstandig was, dat was niet een van de pilaren. Dus ze hebben drie pilaren. Eén is gebed, tweede is werk en derde is gemeenschap. En eigenlijk, het gebed is echt iets dat een ritme geeft aan het leven van de jongeren. Want het vraagt natuurlijk ook wel veel. Ze bidden bijvoorbeeld drie rozenkransen per dag. Maar moeder Elvira geloofde dat doorheen gebed en geloof je de jongeren opnieuw op het juiste pad kan brengen en een innerlijke vrede geven. En moeder Elvira zei altijd, als je leert om op de knieën te gaan, dan ga je terug leren stappen.
Voilà, le deuxième pilier, le travail. On fait une vie très simple. Donc on vit, nous, entre nous, c'est des fraternités qui peuvent passer de 10 jeunes à 20 jeunes, 30 jeunes, 40 jeunes dans les maisons plus grandes. Et on s'occupe de tout, donc l'entretien de la maison, les maisons ont tout un potager, il y a des animaux. Donc les travaux qu'on fait sont des travaux manuels très simples. Il y a peu de place pour l'étude ou pour la réflexion intérieure. C'est important d'être toujours être occupé. Et donc, on fait plein de boulot, des travaux simples, manuels, pendant toute la journée. Donc, c'est vraiment l'activité principale, c'est le travail. Et voilà, c'est vraiment apprendre aussi à redécouvrir que les mains qui ont fait plein de mauvaises choses par avant sont capables de créer des belles choses aussi.
En het leven in zo'n gemeenschap, beste luisteraars, wel, dat draait rond een tweede pilaar ook het werk. Het is eigenlijk een beetje een simpel leven dat ze leiden, vertelt Simeon. Het leven in gemeenschap. De huizen hangt er vanaf. Er zijn huizen van 10 jongeren, 20. In grotere huizen zijn ze zelfs 40. En ze doen alles zelf. Dat wil zeggen, ze onderhouden de gebouwen, ze hebben ook dieren, een moestuin. En dus de bedoeling is ook echt dat de jongeren bezig zijn, dat ze met hun handen echt arbeid verrichten, omdat het ook belangrijk is voor hen om bezig te zijn en ook om opnieuw te ontdekken dat die handen, die misschien ook heel veel verkeerde dingen hebben gedaan, dat ze ook dingen kunnen creëren, opnieuw doen, goede zaken doen.
Voilà, le troisième pilier, c'est la vie fraternelle, la correction fraternelle, je dirais même. Donc, on vit entre nous, des jeunes avec tous des passés plus ou moins difficiles. Et c'est très impressionnant de voir qu'il y a une correction mutuelle, en vérité. Donc, si quelqu'un s'écarte un peu des règles, on va dire, de la communauté, j'aime pas parler de règles, mais plutôt ce que te dicte le bon sens, et ben tout de suite, quelqu'un viendra le faire remarquer. Donc, c'est vraiment cette vie en vérité. Là où par le passé, on a eu plein d'amitiés, des connaissances, mais toutes superficielles. Jamais, moi, j'ai été dire quoi que ce soit à quelqu'un. Et là, vraiment, en fait, on découvre vraiment l'amitié à travers la vérité. Et ça crée des amitiés qui, en fait, durent après. Donc, des amitiés qui, même dans les moments difficiles, dans les moments où on vit des difficultés, ben, les personnes sont toujours présentes.
En het derde pilaar van de gemeenschap, beste luisteraars, is dus de gemeenschap. Het zijn allemaal jongeren die samenleven met... Ja, iedereen heeft eigenlijk wel een zwaar verleden, een verleden achter zich. En er is een soort broederschap die ontstaat, met ook wat we kunnen noemen broederlijke vermaningen, om zo eigenlijk in waarheid vriendschappen te kunnen hebben. Dus als er bijvoorbeeld iets verkeerd loopt met iemand, dan gaan de anderen zeggen, ja, maar dit klopt niet. En het is door die waarheid dat ze ook, en die broederlijke vermaning dat ze aan elkaar geven, dat ze eigenlijk ware vriendschappen opbouwen. En dan in moeilijkere momenten hebben ze dan nog echt iets aan al die jongeren, aan al die vrienden en vriendschappen die ze daar opbouwen. Want in het verleden, vertelde Simeon, heb je soms vrienden gehad waarbij je eigenlijk... dat het alleen maar oppervlakkig was en als je ze nodig had, dan waren ze er niet natuurlijk.
Voilà, alors le quatrième pilier, c'est pas un pilier officiel, mais moi j'aime bien en parler toujours, c'est la providence. La communauté vit entièrement des dons, de ce qu'on reçoit. Parfois, c'est vraiment la base, donc du lait, du pain... quelqu'un qui paye l'électricité pour un mois, quelqu'un qui vient donner un coup de main, quelqu'un qui vient enseigner comment utiliser les machines pour faire une armoire. Donc la providence, elle a plein de visages différents. Mais voilà, Mère Elvira a vraiment fait ce pari. Elle a écrit un livre et dans ce livre, elle disait cette phrase, non ? Elle disait, moi, j'ai fait un pari avec le Seigneur. J'ai dit, moi, j'accueille tous les jeunes. Mais toi, tu dois leur montrer que tu es leur père et que tu es présent pour eux. Et voilà, moi, ça fait 6 ans que je vis dans cette communauté et je n'ai jamais manqué quoi que ce soit. Je n'ai jamais été dormir en ayant faim. J'ai toujours eu ce dont j'avais besoin. Alors parfois, oui, on voudrait plus et la Providence te donne uniquement ce dont tu as besoin. C'est un bel enseignement aussi de se rendre compte que dans une société où on doit toujours avoir, toujours prendre, toujours recevoir ce qu'on veut, quand on veut, ben on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on considère acquises, qui ne le sont peut-être pas forcément, et de vivre de la providence, on redécouvre toutes ces choses-là vraiment comme un don.
Ja, en een vierde pilaar, het is eigenlijk geen officiële pilaar, maar Simeon vertelt er heel graag over, omdat het toch wel een heel belangrijk iets is. Iets dat we hier bij Radio Maria zeker ook kennen, dat is namelijk de voorzienigheid. Ook bij de Cenacolo-gemeenschap is alles 100% op de voorzienigheid rekenen. Ook over basisdinges, bijvoorbeeld de elektriciteit voor een maand moet betaald worden, melk, brood, basisbehoeften eigenlijk. Alles is 100% dankzij de giften van mensen, dankzij de voorzienigheid. En de voorzienigheid heeft daarin natuurlijk vele gezichten. En Simeon vertelde dat moeder Elvira in een van haar boeken schrijft dat ze een weddenschap heeft gedaan met de Heer, waar ze zei van, het is goed, ik zal voor de jongeren zorgen, maar jij moet dan tonen dat je hun vader bent. En hij getuigt dat hij zelf bijvoorbeeld nooit is gaan slapen met honger en dat de voorzienigheid altijd, ja, in alles voorziet. En het is toch wel heel bijzonder in een wereld waar je altijd alles moet hebben, alles moet nemen, alles moet krijgen, dat je ook leert om van de voorzienigheid te leven. En we gaan er even tussenuit met wat muziek, beste luisteraars van Radio Maria. Zo dadelijk zijn we bij u terug. Thank you.
Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
En welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan verder met ons gesprek die we hebben met Thibaut en Sibéon, twee jongeren die samenleven, samenwerken met de Synacolo-gemeenschap. En ik ga, beste luisteraars, vragen aan Thibaut als hij een beetje zijn verhaal wil vertellen. Als hij even wil getuigen van hoe hij in de gemeenschap is terechtgekomen en hoe hij dat vandaag op de dag nog beleeft. Thibaut, oui. Si tu voudrais raconter un peu ton histoire aux auditeurs de Radio Maria et raconter... Oui, le pas que tu as fait de rentrer en communauté quand tu as découvert que Synacolo, la communauté existait.
Alors moi, bon, j'ai la chance de venir d'une famille qui entre guillemets normale. Mes parents étaient ensemble. J'ai eu beaucoup de bonnes valeurs qui m'ont été transmises. Bon, nous sommes quatre. Voilà, j'ai une sœur et voilà, donc jusqu'à mon adolescence, on va dire, j'ai connu une vie heureuse, une belle vie, je manquais de rien, et que ce soit matériellement ou affectivement, j'ai envie de dire. Et après, ça a été un petit peu plus difficile lorsque j'ai ma sœur qui commençait un petit peu à avoir des problèmes avec elle-même dans sa vie à la maison, et elle a dû quitter la famille pour aller finir sa scolarité ailleurs. Et mon papa aussi qui a changé de poste de son travail et est parti vivre plus loin, et je le voyais que le week-end. Et voilà, donc ça ça m'a beaucoup déstabilisé un petit peu et j'ai passé mon adolescence à s'enfermer, à me fermer à l'intérieur. Moi qui étais très, de nature très, très vivante, très, très sociable, très, très ouvert. Et je me suis complètement fermé, je suis devenu un peu une autre personne. Pardon.
Pas de souci. En Thibaut vertelt dat hij eigenlijk uit een normale familie komt, zoals hij het verwoordt. Zijn ouders waren ook samengewoon. Hij heeft één zus, dus ze waren met vier thuis. En tot zijn tienerjaren was eigenlijk alles goed. Hij heeft een heel goed leven gehad. En dan heeft zijn zus zeer veel moeilijkheden gekregen. Een beetje met haarzelf. En eigenlijk is ze dan moeten weggaan uit het gezin om zo haar weg te vinden. En op datzelfde moment, een beetje later, is de vader ook van werk moeten veranderen, waardoor hij eigenlijk veel verder van huis was en uiteindelijk Thibaut zijn vader alleen in de week zag. En zo zijn eigenlijk een beetje de moeilijkheden begonnen, want Thibaut was altijd een hele open jongen, met een hele heel spontaan. En door die moeilijkheden is hij eigenlijk helemaal op zichzelf teruggekropen.
Et donc voilà, je me suis beaucoup enfermé sur moi-même. Ça a été une période un peu difficile, de conflit avec mes parents aussi. Je voulais plus rien de leur part. Et donc, quand j'ai eu l'âge de commencer à faire des études, je suis parti un peu de mon cocon familial, de ma maison familiale, et je voulais vivre ailleurs en fait, surtout hors de mon cercle familial. Plus que pour étudier ou prendre ma vie en main, je voulais surtout fuir ça. Et donc, c'est là où un petit peu a commencé tout ce qui m'a fait plonger doucement dans une longue descente aux enfers. J'ai commencé à connaître des choses de la vie que finalement j'aurais préféré ne pas connaître, la drogue, l'alcool, la fête. Faire la fête, mais d'une manière beaucoup trop excessive. Les filles, faire un petit peu ce que je veux de mes journées, quand je veux, ne plus avoir de contraintes, ne plus avoir quelqu'un qui me dise ce que je dois faire. J'étais à l'université, mais je n'allais même pas en cours le matin parce que je savais que ce n'était pas obligatoire. En fait, j'ai détruit un peu tout ce que j'avais reçu dans ma vie d'avant. Que ce soit les valeurs, que ce soit une discipline de vie, des règles, des contraintes que j'avais eu la chance vraiment d'avoir acquéries. Et petit à petit, je les ai détruites. Sans m'en rendre compte, je pensais être heureux comme ça. Et en fait, je me détruisais à l'intérieur, petit à petit.
En Thibaut vertelt dat hij eigenlijk in die periode dus zeer gesloten werd. Hij had ook veel ruzie met de ouders. Hij moest uiteindelijk niks meer hebben van wat zij hem wouden geven. En vanaf zijn studietijd is hij dan weggegaan, want dat was iets dat hij echt wou, weg uit de familiale kring. En dan is eigenlijk langzaamaan wat hij noemt de afdaling naar de hel begonnen, zonder dat hij het meteen door had. Het is een leven geweest van feest, maar veel te hard feesten, drugs, alcohol, meisjes, eigenlijk doen wat je wilt, niemand die iets kan zeggen en volledige vrijheid, die geen vrijheid dan meer was. Hij was ook op de universiteit, maar hij ging bijvoorbeeld 's morgens nooit naar de les, omdat dat geen verplichting was. En eigenlijk achteraf zegt hij, alles wat hij meegekregen heeft in zijn jeugd, alles van discipline, structuur, regels, eigenlijk door dat leven te leiden, heeft hij alles kapot gemaakt. Is alles kapot gegaan. En dat heeft hij op het moment zelf niet gelijk beseft.
Oui, et même aussi un petit peu tombé dans les écrans, quoi, la dépendance des écrans qui est aussi terrible, que ce soit les jeux vidéo, passer du temps devant l'ordinateur un peu inutilement, à chercher des vidéos, des musiques, des reportages, enfin me couper complètement du monde réel en fait, c'est ça vraiment. Et jusqu'à un moment où est arrivé que ce monde-là s'est un peu écroulé pour moi, les gens avec qui je faisais ça, la fille avec qui j'étais, enfin tout est parti et en fait je me suis retrouvé tout seul. Et là, j'ai commencé vraiment à broyer du noir. J'avais beaucoup de paranoïa, vraiment beaucoup. Je voyais tout en noir. je voyais des choses bizarres, enfin, je me sentais vraiment pas bien. Et là, ben, j'ai décidé de rentrer chez moi, chez mes parents, parce que j'y arrivais plus. J'avais lâché l'université, que malgré tout, j'ai eu un diplôme quand même. Mais après, j'ai lâché. Et je suis retourné chez mes parents. Et en fait, j'ai fait une sorte de tentative de suicide, quoi, finalement. Et après, j'ai fait une période à l'hôpital psychiatrique de 2-3 mois. Et je suis retourné vivre chez mes parents. Et en fait, c'était une sorte d'appel à l'aide, cette tentative de suicide. Mais je n'arrivais pas à le mettre avec des mots. Je n'arrivais pas à l'expliquer. J'avais l'impression d'être tombé tellement bas. C'était une sensation bizarre. Et c'est comme si tout effondrait. Et j'avais honte. Je n'avais pas la force non plus de me dire que si j'allais pouvoir me relever. Enfin, c'était vraiment terrible. Et après, je suis retourné chez mes parents pour une année. Ça a été très dur. Parce que, eh ben, ils ont leur vie de parents. Moi, j'ai eu une vie avant et il fallait qu'on cohabite. Et ça a été vraiment très difficile. Et pour eux aussi, de me voir dans cet état-là, ça a été très difficile. Je me souviens ma maman qui me disait qu'elle rentrait plus tard le soir du travail parce qu'elle n'avait pas envie de me voir, en fait. Ça lui faisait vraiment trop de peine de me voir comme ça.
En hij vertelt dat hij dan op een gegeven moment ook nog een schermverslaving heeft gekregen. Niet alleen de games, hè, de spelen op de computer en op andere toestellen, maar gewoon soms ook het niks doen. Gewoon op internet zitten zonder een doel te hebben. Gewoon uren voor het scherm. En dan is zijn vriendin weggegaan en hij is gestopt met naar de universiteit te gaan. En eigenlijk is hij alleen gevallen. En dat is een hele zwarte periode geweest waar hij ook een beetje paranoïde werd. Het was extreem zwaar. Het ging eigenlijk helemaal niet meer. En dan heeft hij eigenlijk alles losgelaten en dan is hij teruggegaan naar zijn ouders. Hij heeft ook een zelfmoordpoging gedaan dat hij omschrijft eerder als een kreet om hulp, omdat hij het niet kon verwoorden. Er was een schaamte en een moeite met dat te kunnen verwoorden. Hij is dan ook 2-3 maanden in de psychiatrie geweest en daarna een jaar bij zijn ouders gewoond. Een jaar dat ook zeer zwaar was, niet alleen voor hem, want zijn ouders gaven wat regels, wat structuur en hij kwam uit een leven dat geen regels of structuur meer had. Maar ook voor zijn ouders die het zo moeilijk hadden om hem zo te zien, afzien, lijden en daar iets moeilijk aan konden doen. Hij vertelt bijvoorbeeld dat zijn moeder later vertelde dat zij langer op het werk bleef om niet te snel naar huis te gaan, omdat ze het veel te moeilijk vond om hem daar te zien.
Voilà, ça a été vraiment un enfer, cette période-là, où je suis revenu chez mes parents. Et un jour, ils m'ont dit, écoute, fais ta vie, c'est plus possible. Et donc, je suis allé prendre un appartement, j'ai revécu tout seul. Et là, c'était pareil, voilà, je me suis complètement désociabilisé. Ça, c'est vraiment quelque chose de très fort, vraiment désociabilisé. Un jour, j'ai un déclic pour moi, malgré beaucoup de personnes autour de moi qui me voulaient du bien, qui priaient pour moi, qui voulaient que je m'en sorte. Et j'avais un ami qui était devenu moine, en fait, en 2016. Et donc, il était moine depuis déjà 2-3 ans. Et il avait entendu parler que j'allais pas bien. Et il m'avait invité là-bas, chez lui, dans ce monastère, pour me voir. Il voulait me voir. Alors moi, j'avais pas envie parce que je voulais vraiment voir personne, rester chez moi, sur le canapé, toute la journée, à rien faire et avoir personne. Et je suis allé le voir et en fait, c'était vraiment quelqu'un qui j'étais très proche, mon enfance. Et je voyais qu'en fait, il était prêt à tout pour m'aider, quoi. Mais vraiment, je sentais son amitié très fort. Et donc, je suis sorti un peu de là-bas, un petit peu transformé, mine de rien. Je me suis dit, mais au moins, si tu le fais pas pour toi, fais-le pour lui. Et j'ai commencé à reprendre un petit peu ma vie en main. Il y a un petit déclic qui a eu lieu. Voilà, j'avais envie de me lever plus tôt, de faire un peu de sport, de bien manger, de retrouver un peu de discipline, d'hygiène de vie, quelque chose, de passer moins de temps sur les écrans, de lire, d'avoir une vie plus saine. Et aussi petit à petit de remettre un peu les pieds dans le monde de l'église que je quittais, que j'avais complètement perdu, quoi. Et j'ai rencontré un prêtre à cette époque-là qui est devenu un peu, comme on dit, père spirituel. Voilà. Et je le voyais une fois ou deux par semaine et on discutait pendant 2-3 heures à chaque fois. Et ça me faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Vraiment, parce que je voyais un psy aussi à cette époque-là, un psychologue, mais pour moi, c'était plus une contrainte qu'autre chose d'y aller. Je ne trouvais aucune réponse là-bas. Et avec ce prêtre, je me sentais écouté, je ne me sentais pas jugé, mais je sentais qu'il avait envie d'apporter des solutions à mes problèmes et de me conseiller. Pardon, je n'ai pas l'habitude.
Pas de souci. En Thibaut beschrijft deze periode die hij beleefd heeft als echt een hel. En dan op een gegeven moment ging het niet meer met thuisblijven bij zijn ouders. En dan hebben zijn ouders gezegd van ja, maak iets van je leven, ga verder. En dan heeft hij uiteindelijk weer zijn eigen appartement, een eigen appartement genomen, zelfstandig gaan wonen. En er waren wel veel mensen die voor hem aan het bidden waren. En echt het beste voor hem wensen. Maar het was voor hem een hele verschrikkelijke periode ook, omdat eigenlijk hij zichzelf helemaal opsloot. Dus op sociaal vlak was hij gewoon alleen in zijn zetel aan het niks doen. En een broeder die hij kende van vroeger en met wie hij wel een vrij goede band had, heeft hem dan, nadat hij gehoord had dat Thibaut het moeilijk had, in het klooster uitgenodigd. En Thibaut is uiteindelijk gegaan. En dat heeft hem eigenlijk heel veel deugd gedaan. Hij heeft uiteindelijk dan een soort klik in zijn hoofd gehad van ik ga een keertje meer vroeg opstaan of ik ga een beetje meer voor mezelf zorgen. Ik ga eens wat gaan sporten. Dus hij heeft weer het heeft iets kleins veranderd in zijn leven waarbij hij achteraf zegt van waarbij hij zei in zijn hoofd van oké, weten, misschien moet ik het, als ik het niet gelijk voor mezelf doe, misschien moet ik het gewoon voor die broeder doen. Gewoon proberen dat verder door te doen, hetgeen dat hij gevoeld had in het klooster. Dan heeft hij ook een priester ontmoet, die uiteindelijk zijn geestelijke leider is geworden. Hij ging in diezelfde periode ook nog veel naar de psycholoog, maar hij had het gevoel dat dat niet vooruit ging, dat dat niet hielp. Terwijl als hij met de priester sprak, ongeveer 2 à 3 uur per week, deed hem dat zoveel deugd en hij had echt het gevoel van oké, met hem kan ik vooruit, die helpt mij vooruit.
Et oui, donc pour moi, ça a été vraiment, c'était un moment de joie en fait, moi, d'aller là-bas le voir et comme je voyais vraiment pas personne, c'était un de mes seuls contacts. Et en fait, je commençais à retourner à la messe aussi le dimanche parce que j'habitais à côté de l'église aussi et puis je me suis dit bon, on va voir, ça coûte rien. Et en fait, je me suis abonné aussi à Prions en Église. Alors, je ne sais pas si ça existe ici. Et voilà, parce que mon grand-père l'avait, quand j'étais petit, depuis que j'étais petit, je le voyais. Et un jour, dans le Prions en Église de mai 2020, j'ai vu un article qui parlait du Cénacolo, de la communauté du Cénacolo. Le titre de l'article, c'était « Au Cénacolo, j'ai trouvé la paix du cœur ». Voilà, je l'ai encore gardé d'ailleurs, ce petit... je sais pas comment on appelle, petit livret. Et dans l'intérieur de moi, en lisant ça, je me suis dit, waouh! Et ça a suscité vraiment en moi un mélange de curiosité, de je dois essayer. Ça a suscité en moi beaucoup de choses. Et j'avais vraiment envie de rien faire à l'époque. Enfin, je faisais des petits boulots comme ça, à droite à gauche, mais. Ça me rendait pas heureux, enfin, ça m'apportait rien, je le faisais juste pour par fierté, un peu me dire, bon, faut moi que je fasse quelque chose, que je gagne un peu ma vie. Et là, je me disais, bon, pourquoi pas. Et j'ai attendu quelques mois, j'y ai réfléchi, j'y ai pensé un peu aussi. Et puis voilà, et puis un jour, j'ai vu aussi un frère franciscain que je connaissais de mon enfance, que j'ai vu, et je lui ai raconté mon histoire. Et il m'a parlé aussi du Cénacolo. Il m'a dit, tu connais cette communauté-là, ça pourrait te correspondre. Et bon, j'ai dit, ok, c'est bizarre, là, ça, plus ça. Et je lui ai dit, bon, je vais voir, je vais me renseigner. Il me dit, non, tu appelles, Dis-moi, après tu me tiendras au courant. Et voilà, et donc après j'ai appelé, et puis je suis allé faire le protocole habituel, donc une visite, je suis retourné chez moi une semaine, les journées d'essai, je suis retourné chez moi une semaine, et je suis rentré après en communauté, parce que tous les voyants étaient au vert, j'étais pas non plus... J'avais arrêté un petit peu mes addictions déjà depuis un petit moment... Et voilà, j'avais envie d'essayer, et puis eux m'accueillaient aussi.
Thibaut vertelt dat het dan een periode was waar hij heel blij was en veel vreugde ervaarde om naar zijn geestelijke leider te gaan, naar de priester die hem dan hielp, waarbij hij zijn hart kon luchten. Dat is ook een periode waar hij besloot om terug naar de mis te gaan. Hij woonde in een appartementje niet ver van de kerk. En dan heeft hij dan ook weer een abonnement genomen op een boekje, een tijdschriftje, Prier en Église, Bidden met de Kerk. Een boekje zeer gekend in Frankrijk. En een boekje dat, vertelt hij, zijn grootvader altijd thuis had. En op een dag las hij in dat tijdschrift, dat was in mei 2020, was er een getuigenis, een artikel, waar de titel was Bij Cenacolo heb ik de vrede in mijn hart gevonden. En hij vond dat een hele straffe titel. Hij dacht, wow, oké, nu ben ik wel heel nieuwsgierig. Misschien moet ik dit wel proberen, Cenacolo. En in diezelfde periode had hij wel kleine jobjes hier en daar, maar niks dat echt voldoening gaf. Het was gewoon om bezig te blijven en om een inkomen te hebben. En hij bleef maar ergens nadenken over Cenacolo. En dat heeft wel enkele maanden geduurd. En dan op een dag ontmoet hij een broeder Franciscaan, die hij van vroeger wel kende, die hem ook vertelde, nadat Thibaut zijn verhaal vertelt, over Cenacolo. Hij zegt, ja, weet je dat er een gemeenschap bestaat, Cenacolo? En dan dacht Thibaut, ja, misschien moet ik dat dan ook wel gaan bekijken. En hij zegt dan aan die broeder van, ja, ik zal er wel eens informatie over zoeken. En de broeder zegt dan gelijk, nee, je moet gaan bellen, doe dat dan maar gelijk. En dan heeft hij dat gedaan en dan heeft hij deelgenomen aan die ontmoetingsprotocol dat ze hebben. Dus je moet eens komen bezoeken, een dagje meegaan. En dan uiteindelijk heeft hij de stap gezet om bij de gemeenschap toe te treden. Maar dat vertelt hij morgen verder, beste luisteraars, want we zijn reeds aan het einde gekomen van deze uitzending.
Per me vivere Cristo, tutto posso in colui che mi dà forza. So a chi ho dato la mia fiducia, per me vivere Cristo, tutto posso in colui che mi dà forza. Una luce ha avvolto il mio cuore, una voce mi ha parlato, ho incontrato il Signore. So a chi ho dato la mia fiducia, per me vivere Cristo, tutto posso in colui che mi dà forza. So a chi ho dato la mia fiducia, per me vivere Cristo, tutto posso in colui che mi dà forza. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la mia corsa, ho conservato
fiducia per me vivere Cristo. Tutto posso in colui che mi dà forza. So a chi ho dato la mia fiducia per me vivere Cristo. Tutto posso in colui che mi dà forza. So a chi ho dato la mia fiducia per me vivere Cristo. Tutto posso in colui che mi dà forza. So a chi ho dato la mia fiducia per me vivere Cristo. Tutto posso in colui che mi dà forza. So a chi ho dato la mia fiducia per me vivere Cristo. Tutto posso in colui che mi dà forza. So a chi ho dato la mia fiducia per me vivere Cristo. Tutto posso in colui che mi dà forza. So a chi ho dato la mia fiducia per me vivere Cristo. Tutto posso in colui che mi dà forza. So a chi ho dato la mia fiducia.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, hebben jullie al een eerste uitzending kunnen volgen? Morgen in een volgende uitzending van Elke Dag Telt gaan we verder luisteren naar de getuigenis van Thibaut en Simeon. En natuurlijk gaan we nog een Bijbelvers voor de dag trekken, beste luisteraars. Kom, o Heilige Geest. En we trekken een kaartje. De liefde berokkent de naaste geen enkel kwaad. Liefde vervult de gehele wet. Het komt uit de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 13, vers 12. De liefde berokkent de naaste geen enkel kwaad. Liefde vervult de gehele wet. En met deze zeer toepasselijke Bijbelvers, beste luisteraars, sluiten we de uitzending van vandaag af. Tot morgen vroeg.